Bonjour et bienvenue dans votre émission culturelle et historique préférée 20 minutes d'histoire avec Charles Boriot, Pascal Montlahuc et moi-même qui suis de retour, Antoine Rivaud. Nous accueillons aujourd'hui Isabelle Doré-Rivet, bonjour.
Bonjour.
Directrice du Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation. Elle a édité de nombreux catalogues d'expositions du CHRD tels que Chantons sous l'occupation en 2003 ou Dessins pour l'histoire, le procès Barbie par René Diaz en 2005. Nous allons notamment évoqué avec Madame Doré-Rivet la sortie de La Rafle, le film, mais aussi les enjeux de la mémoire des années noires à Lyon.
Alors bonjour. Quelle est, pour commencer, l'actualité du CHRD en ce moment à Lyon ?
On prépare comme souvent une exposition temporaire qui sera inaugurée la semaine prochaine, consacrée au parcours croisé de Jean-Pierre Vernant et de Pierre Vidal-Naquet, donc deux figures qu'on souhaitait travailler plus particulièrement au Centre d'Histoire en raison de leur engagement, en raison des connexions qu'ils ont avec l'histoire contemporaine, la Seconde Guerre mondiale bien sûr, puisque Jean-Pierre Vernant est un grand résistant, compagnon de la Libération, un des libérateurs de Toulouse. Jean-Pierre Vidal-Naquet a une histoire particulièrement connectée aussi à la Seconde Guerre mondiale puisque ses parents ont été exterminés à Birkenau en 1944. Ce sont des grandes figures engagées dans la guerre d'Algérie pour lutter contre la torture. Jean-Pierre Vidal-Naquet s'est beaucoup engagé aussi contre le révisionnisme, notamment à Lyon. Donc on se devait de rendre hommage à ces personnes. L'idée de les associer est apparue assez vite comme une évidence parce que leur combat était souvent commun. Pierre Vidal-Naquet faisait partie du conseil scientifique du Centre d'Histoire, donc on a pu avoir accès assez facilement à un certain nombre d'archives, d'où cette exposition inaugurée le 31 mars prochain. On prépare aussi une exposition consacrée à l'itinérance des populations roms en Europe, donc une exposition photographique qui sera présentée au mois de juin. Et surtout, on travaille un grand projet qui est de refaire notre exposition permanente qui date de 1992. Donc un travail de fond important qui nous mobilise beaucoup sur l'analyse des collections et puis sur la recherche d'éléments consacrés notamment sur la répression à Lyon, l'histoire de la répression à Lyon.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des liens entre le centre que vous dirigez et le centre de documentation juive contemporaine ou le mémorial de la Shoah, par exemple ?
Oui, on a beaucoup de liens, évidemment, notamment puisqu'on échange des collections quasiment en permanence au rythme de nos expositions temporaires. Donc c'est une pratique qu'on a avec à peu près tous les centres d'archives et tous les lieux de mémoire consacrés à la période. Plus encore évidemment avec le mémorial de la Shoah qui a des collections inépuisables. Pas seulement sur la Shoah d'ailleurs, on a beaucoup travaillé avec eux sur une exposition sur les prisonniers de guerre. Et puis on échange des historiens aussi. c'est vraiment un partenaire naturel en dépit de la distance qui n'est que relative.
Et justement, le CHRD ne s'occupe pas que de questions de Seconde Guerre mondiale. Dans quel champ il a pu étendre ses recherches également ?
Alors, on travaille effectivement beaucoup sur le second XXe siècle. On a travaillé récemment, 20e anniversaire oblige, sur la chute du mur de Berlin, à travers une exposition consacrée, alors pas tant à la chute qu'aux événements qui l'ont précédée, notamment aux événements de la ville de Leipzig en octobre 89. On travaille, je vous ai dit là, sur l'histoire des migrations et notamment la migration des populations roms. Une exposition qui va s'articuler avec une autre exposition qu'on avait présentée il y a 2 ans sur l'internement des Tziganes en France. Ça nous avait semblé absolument nécessaire de trouver un prolongement contemporain. Un certain nombre de thématiques étaient apparues et nécessité d'être travaillées sur le contemporain. C'est souvent à travers le média de la photo qu'on travaille sur le monde contemporain, parce qu'évidemment, c'est des sujets compliqués du fait du monde de recul. Puis bon, c'est pas notre période de référence non plus. Mais on essaie quand même d'éclairer cette période plus contemporaine, voire d'histoire immédiate, notamment à travers ces parcours qu'on présente, donc ceux de Vernant Vidal-Naquet en l'occurrence, ceux de Germain Tillon en 2004. Donc des personnes engagées dans la Seconde Guerre mondiale, mais bien évidemment engagées en amont et en aval de la période.
Antoine l'a dit en introduction, on va parler un petit peu du film qui est sorti de Roselyne Bosch, La Rafle. Alors c'est le premier film à centrer son action sur l'événement de La Rafle en lui-même. Alors ça pose la question de savoir jusqu'à quel point est-ce que la Shoah est représentable au cinéma, selon vous.
C'est une question compliquée, puisque vous savez qu'on n'a pas d'image de la Shoah, ou très peu. Les images qu'on a dans la tête concernant la Shoah ne sont pas celles de la Shoah en général. L'image sans doute la plus récurrente dans les esprits, c'est celle des bulldozers qui poussent un monceau de cadavres. Ce n'est pas une image de la Shoah, c'est une image de la libération des camps, pas des camps d'extermination, mais des camps de concentration, donc où étaient détenus les résistants de toute l'Europe. Ces personnes qu'on voit sur ces cadavres sont des personnes qui sont mortes en général du typhus, donc en aucun cas il s'agit d'image de la Shoah. C'est une reconstruction mémorielle parce qu'il y a très peu d'images. Il y a les images de l'album d'Auschwitz qui date de 1944, quelques photos volées au camp de Birkenau à travers une fenêtre par un commando chargé d'évacuer les cadavres. Très très peu d'images donc. D'où la nécessité d'en recréer mentalement ou à travers la fiction, ce qui est le cas du film La Rafle, puisqu'on a peu d'images aussi de cette rafle du 16 et 17 juillet 1942. Évidemment, c'est des événements bon, qui sont à la fois extrêmement brutaux, donc qui laissent peu de latitude au public en général pour garder trace de tout ça. Ce serait aujourd'hui, évidemment, avec les téléphones portables, il y aurait certainement des traces, mais on est en 1942. Les autorités n'ont pas souhaité garder trace, bien sûr, de cet événement. D'où une absence d'image historique, d'où la nécessité de passer par le média de l'art pour en reconstruire et puis pour donner une sorte d'épaisseur à cet événement.
Est-ce que justement ce manque de, on va dire, de documents d'archives sur la Shoah n'a pas joué aussi, vous avez parlé de négationnisme tout à l'heure, n'a pas joué dans cette profusion de négationnisme du fait d'absence d'images concrètes?
Oui, alors j'ai dit qu'on manquait d'images, pas d'archives. Hein.
Ah oui,
en aucun cas, on manque d'archives. On a beaucoup, beaucoup d'archives sur la Shoah. L'idée, le fait qu'on soit obligé de reconstruire des images mentalement, pas de façon perverse, hein, simplement parce qu'on n'a pas d'images et qu'on a besoin de cette représentation, laisse la porte ouverte à beaucoup de dérives possibles. D'où le travail qu'avait mené par exemple Jean-Claude Pressac, qui à la base n'était pas entièrement convaincu de la réalité de la Shoah, qui avait travaillé sur les archives techniques des camps d'extermination et qui avait publié un ouvrage assez important sur ces archives de construction en fait, des chambres à gaz notamment, qui a constitué en fait une preuve éclatante de la réalité de la Shoah. Ça, c'est des travaux qui ont été menés dans les années 80, justement pour pallier cette absence de représentation qui laissait les gens un peu déroutés.
Et s'il y a peu d'images, ça a laissé des traces dans les mémoires, qu'on pense à la rafle du Veldiv ou pour Paris. Est-ce que l'épisode des Enfants des Yeux à Lyon a laissé une marque équivalente dans la mémoire lyonnaise?
Oui, c'est un épisode qui a suscité beaucoup d'émotions, qui n'est pas isolé. Il y a eu beaucoup de maisons de Lozay, de l'œuvre de secours aux enfants, qui ont été décimées au cours de ce printemps 1944. L'épisode de l'arrestation des enfants des yeux est bien connu, puisqu'il a été très étudié par Serge Klarsfeld, et que c'était un des chefs d'inculpation de Klaus Barbie lors de son procès. Donc le fait que ce parcours soit extrêmement bien étudié, que la maison qui les accueillait soit érigée en lieu de mémoire en musée, a contribué à les faire connaître. Klarsfeld et d'autres historiens ont permis de redonner une identité à ces enfants. On connaît le nom, l'âge, mais aussi qu'on a pu retrouver des dessins envoyés aux familles, des photos, y compris des photos vraiment d'une vie heureuse au sein de cette colonie. Ça a certainement contribué à une approche assez affective de cette mémoire qui n'est pas isolée, encore une fois.
Alors, vous parliez de Serge Klarsfeld, donc justement, est-ce que l'épisode du boucher de Lyon, donc de Klaus Barbie, a laissé vraiment une empreinte forte à Lyon, notamment à travers tout l'épisode de la torture de Jean Moulin, par exemple?
Oui, alors je pense qu'il y a toujours eu une mémoire forte du passage de Barbie à Lyon. Barbie, qui n'avait pas un grade très élevé, c'est un lieutenant, hein, mais qui a déployé un zèle et, on pourrait dire, une efficacité dans ses fonctions tout à fait redoutable. C'est surtout, bien sûr, l'épisode de son procès en 1987, qui va durer 8 semaines à Lyon, qui a marqué durablement les esprits et qui a revivé cette mémoire qui était peut-être un peu éteinte. Alors, concernant Jean Moulin, c'est plus la mémoire de Jean Moulin qui est prégnante que celle de son arrestation, sans doute. Encore qu'il y a un certain nombre d'affaires récentes dans les années 80-90 qui ont ravivé cette mémoire de Jean Moulin sur un mode polémique, souvent. Jean Moulin était un peu convoqué à toutes les sauces, accusé de crypto-communisme, d'être un agent des Américains. Pourquoi pas agent des Esquimaux, disait Jean-Pierre Azéma d'ailleurs à ce sujet. Un certain nombre d'affaires autour notamment de la personnalité du couple Aubrac aussi. Tout ça a ravivé cette mémoire avec la dimension un peu mystérieuse de son arrestation. Il n'y a pas vraiment de mystère autour de l'arrestation de Caluire, mais le public aimerait bien qu'il y en ait un peu. Tout ça, bon, effectivement, a donné un éclairage particulier sur la figure de Jean Moulin et sur son arrestation. Alors à Lyon, c'est quelque chose qui va être sans doute plus concret dans les mois et les années qui viennent, parce qu'il y a deux lieux importants, à la fois pour la mémoire de Jean Moulin et pour celle des enfants d'Isieux d'ailleurs, enfin pour l'un d'eux en tout cas, qui vont être réhabilités et aménagés, pas en musée, mais enfin en lieu de mémoire en tout cas. C'est la maison du docteur Dugoujon à Caluire, donc le lieu de l'arrestation de Jean Moulin, qui à partir de l'automne prochain sera un petit lieu d'évocation mémorielle, donc un lieu qui n'évoquera que cet événement et ses enjeux. Et puis un lieu important, plus grand, qui est l'ancienne prison de Montluc, qui était une prison de femmes jusqu'au février 2009 à peu près, qui est en cours de réhabilitation et où seront évoqués un certain nombre de parcours de personnes ou groupes de personnes passées par Montluc, qui était la prison allemande. Donc la prison a été détenue, les personnes résistants juifs, otages aussi, arrêtées par les Allemands. Donc, parmi ces parcours seront évoqués celui de Jean Moulin, bien sûr. On a beaucoup de témoignages sur son passage à Montluc. Et puis celui des enfants d'Isieux qui passent une nuit à Montluc, la nuit du 6 au 7 avril 1944, avant d'être emmenés par les transports en commun lyonnais jusqu'à la gare de Perrache. Et de là, ils partent à Drancy. Donc oui, c'est une mémoire qui va trouver un peu des points d'appui géographiques, on va dire, dans notre ville. Évidemment, il y a notre point d'appui géographique qui est le centre d'histoire, puisque c'est le lieu d'interrogatoire de tous ces gens-là. Pas les enfants d'Isieux, mais Jean Moulin en tout cas. Donc oui, une mémoire qui a toujours été présente dans la ville, réactivée fortement par le procès Barbie, qui dure comme 8 semaines et qui est très très médiatisé, auquel on emmène des classes entières. Donc les gens de ma génération, ou un peu plus âgés, sont pour beaucoup passés par le procès Barbie, ont assisté à une séance du procès Barbie, ce qui marque durablement. Et puis donc ces nouveaux lieux et cette nouvelle évocation de l'histoire dans la ville.
D'accord. Et son nom d'ailleurs de Jean Moulin est souvent apposé à un bon nombre de monuments lyonnais. Est-ce qu'on continue toujours, j'ai envie de dire, pas ce devoir de mémoire, mais à apposer le nom de Jean Moulin dans la mémoire urbaine un peu de Lyon? Est-ce qu'on...
Sans doute un peu moins. Alors la mémoire de Jean Moulin a son apogée en 1964 avec le transfert de ses cendres au Panthéon, le discours de Malraux. Donc on est 20 ans après la libération, c'est un événement important. De Gaulle et Malraux choisissent Jean Moulin, donc le symbole de l'unificateur de la résistance. Ça aurait pu être Pierre Brossolette, mais c'est Jean Moulin. Et dès lors, c'est vrai que la mémoire va se matérialiser par l'attribution du nom de Jean Moulin à un certain nombre d'établissements. Je crois qu'il y a plus de 300 établissements scolaires en France qui portent le nom de Jean Moulin. On en a à Lyon. Des rues, des squares, etc. Quelques maisons de retraite, ce qui est plus rare. Je ne pense pas qu'on baptise encore des établissements publics du nom de Jean Moulin. La figure qui monte actuellement, c'est celle de Lucie Aubrac. La dernière école qu'on a baptisée à Lyon le 8 mars, c'est l'école Lucie Aubrac dans le 2e arrondissement. Peut-être parce que c'est plus politiquement correct que ce soit une femme, déjà. Ensuite, bon, c'est vrai que la figure unificatrice de Jean Moulin a été un peu éreintée ces dernières années. Bon, il y a des cycles mémoriels. Je ne suis pas sûre que le cycle de Moulin soit sur une phase ascendante.
D'accord.
Donc, on va parler toujours dans ces enjeux de mémoire, des enjeux pour l'historien plus précisément. Alors, Henri Rousseau avait distingué 4 phases de la mémoire. Et l'époque à laquelle il écrivait, donc la fin des années 80, pour lui, était l'époque de l'obsession de la mémoire, et notamment de la mémoire juive. Est-ce que vous partagez cette analyse, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas, ou est-ce que vous pensez qu'on est dans d'autres enjeux de mémoire?
Oui, l'époque est différente, bien sûr, puisque ce que Rousseau écrivait, je crois que c'était en 87, ça fait quelques années. Il y a une génération presque qui est passé, et un élément extrêmement concret qui est la disparition des témoins, des acteurs des faits. C'est-à-dire qu'à l'époque où écrit Rousseau, il y a une transmission directe qui s'opère de cette mémoire des acteurs des faits, des anciens résistants, mais aussi des survivants de la Shoah. Plus tard viendront les enfants cachés qui vont se mettre à parler aussi, donc les enfants juifs cachés sous l'occupation. Là, on est dans la période de l'après-témoin. Donc, une génération a passé, il n'y a plus cette transmission directe. Donc, l'aspect émotionnel qui pouvait exister à travers les témoignages de ces gens-là tend à disparaître et tend à être remplacé par une évocation qui est artistique. On parlait de la rafle tout à l'heure. La médiation, elle se fait beaucoup moins par le témoin direct, encore qu'au centre d'histoire, par exemple, il y a tous les jours quasiment d'anciens résistants et d'anciens déportés qui viennent parler aux jeunes, mais elle se fait par le média artistique et notamment par le cinéma. L'obsession mémorielle, c'est plutôt une obsession artistique en l'occurrence. Il ne se passe pas non plus une semaine, voire un jour, sans que je reçoive des projets de jeunes artistes qui veulent travailler sur cette période de la Seconde Guerre mondiale, souvent sur la Shoah, c'est vrai. Alors c'est vrai aussi que la mémoire de la Shoah s'est identifiée, s'est sortie de la mémoire commune de la Seconde Guerre mondiale au cours de ces dernières années. Pendant très longtemps, il n'y avait pas de commémoration particulière des victimes juives. Le procès Barbier a été un tournant important puisque ces victimes ont été entendues. Et on assiste effectivement à une sorte de scission des mémoires. Quelque chose de très concret. Pendant très longtemps, à Lyon, c'était le monument qu'on appelle le Veilleur de Pierre sur la place Bellecour, qui servait de lieu de commémoration pour toute commémoration. C'est encore ce lieu qui sert notamment le 27 janvier pour la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz. Mais les associations juives ont une revendication qui est de créer un monument spécifique pour la commémoration de la Shoah. Donc là, on est vraiment effectivement à un tournant où les différents groupes, sans s'affronter forcément, affirment fortement leur identité.
D'accord. Alors, juste, Zev Stern, elle, est connue parmi le grand public pour avoir défendu la thèse selon laquelle le fascisme avait une origine française. Alors, qu'en dites-vous sur cette thèse? Et comment est-ce que cela se manifeste dans la période de l'occupation?
Il existe un nationalisme français dans les années 30, bien sûr, l'époque des ligues. Vous connaissez l'épisode du 6 février 1934, un anti-parlementarisme teinté d'un antisémitisme à la française.
C'est-à-dire la spécificité française de cet antisémitisme?
Il est très, très décomplexé, mais il ne se traduit pas par des faits.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va retrouver notamment dans le témoignage de Daniel Cordier. Donc, Daniel Cordier, secrétaire particulier de Jean Moulin, qui est issu d'une famille du sud-ouest de la France, et qui affirme avec beaucoup de lucidité que oui, effectivement, à l'âge de 20 ans, donc en 1939-40, c'est clairement un soutien actif des camelots du roi, quelqu'un qui a crié dans les rues « mort aux juifs » et qui comprend dans un éclair de lucidité en 1940 qu'on va vraiment tuer les juifs.
D'accord.
Et qui opère un retour sur lui-même tout à fait radical. Donc oui, il existe ce milieu en France qui regroupe pas mal d'anciens combattants de la Grande Guerre. Oui, il y a un terrain qui n'est pas fasciste, qui est d'extrême droite en France, qui terrain sur lequel le régime de Vichy va faire son lit largement. Vous pouvez ajouter à ça aussi tous les conflits qu'il y a eu autour de la séparation de l'Église et de l'État en 1905, du cartel des gauches qui en a remis une couche en 1924. Donc il y a cette interrogation sur la place de l'Église aussi dans la société qui vont ressurgir avec Vichy. De là, parler d'un fascisme à la française, je ne sais pas si... Bon, ce n'est pas ce que je perçois intimement. Mais cette oui, ce terrain, il est très présent et il va bien sûr s'exacerber dans les années d'occupation.
Pour enfin terminer avec les problèmes de méthode liés aux historiens aujourd'hui de cette période, en 1991, dans Les Juifs sous l'occupation, André Caspi déplorait que le terrain de la vie quotidienne, en ce qui concerne cette période, était quasiment pas défriché. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui où on s'oriente vers le terrain de la vie quotidienne dans les études sur la Seconde Guerre mondiale?
De la vie quotidienne, de la vie artistique
Oui, les Français sous l'occupation et leur vie quotidienne.
En tout cas, ça devient une nécessité parce que justement pendant longtemps, du fait de la présence des témoins, il n'y avait pas un besoin marqué de faire cette histoire-là puisque c'était une transmission qui se faisait directement. Comment on vivait, qu'est-ce qu'on mangeait, comment on communiquait. Ça se faisait naturellement dans les familles déjà. Les grands-parents racontaient ça à leurs petits-enfants. Et puis, si ça ne se faisait pas dans les familles, ça se faisait par le biais d'une génération à l'autre. Oui, on sent bien que les enfants qu'on reçoit, enfin les adolescents qu'on reçoit au Centre d'histoire de la Résistance sont quasiment issus d'une autre civilisation que celle des années 40. L'immédiateté des communications, la surabondance de tout, de vêtements, de friandises, etc., fait qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre une période de restriction, une période de repliement sur soi. Donc oui, c'est en tout cas c'est un terrain qu'on va travailler d'un point de vue muséographique fortement parce que si on comprend pas ça, on comprend bien sûr pas les univers mentaux des acteurs des faits et c'est important. Il y a le terrain de la vie artistique aussi qui est particulièrement intéressant. Qu'on aborde un peu dans l'exposition consacrée à Rose Vallant, attachée de conservation au musée du Jeu de Paume pendant la guerre, parce qu'il y a un vrai enjeu de politique et de collaboration autour de la vie artistique pendant l'occupation. Et puis, je crois que les pratiques culturelles des Français sous l'occupation, c'est aussi quelque chose de tout à fait passionnant en termes de résistance collective à l'oppression. Donc oui, bien sûr, c'est des terrains qu'on commence à travailler. On a vu... Je parle plus d'exposition que de publication parce que j'y suis plus sensible. On a vu une exposition importante à Paris consacrée à la mode sous l'occupation au musée Jean Moulin qui a fait un peu frémir notamment les édiles parisiens qui craignaient le côté un peu léger du sujet. Pendant très longtemps, on n'avait pas vraiment le droit de parler de la cuisine sous l'occupation, de la mode sous l'occupation parce qu'il y avait une mémoire quand même très, très négative, bien sûr. Le poids des martyrs pesait sur tout ça et faisait que c'était presque considéré comme de mauvais goût que de parler de choses qui pouvaient sembler futiles. Et on s'aperçoit qu'à travers ces choses futiles, on touche à bien du sujet qu'ils ne sont pas. On touche à la fois à l'exclusion des juifs de ces milieux de la vie culturelle et artistique. On touche à la façon de s'approprier les restrictions. On touche aux formes de résistance spirituelle et intellectuelle. C'est beaucoup moins léger qu'il n'y paraît. Et je crois qu'il y a un vrai intérêt du public, surtout, ce qui mérite d'être entendu.
Avec la disparition des témoins et donc des sources orales directes pour les historiens, en quoi est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une nouvelle histoire de l'occupation, d'une nouvelle façon de faire l'histoire de l'occupation, vu qu'il n'y a plus ces témoignages oraux, enfin, qu'il y en a de moins en moins, évidemment. Est-ce qu'il y a un retour à l'archive?
On les a plus en direct. L'archive, oui, elle a pris une nouvelle forme. Il y a eu beaucoup de collectes de ces témoignages dans les années 80-90. Donc on est face à une masse de documents qui posent pas mal de problèmes de méthodologiques, déjà de conservation, parce que c'est des choses qui ont été faites sur des supports analogiques qui ont une durée de vie extrêmement brève, qu'il faut bien sûr numériser quand c'est encore possible. On va en perdre beaucoup, ça c'est sûr. Problème de conservation, donc problème après d'approche archivistique, donc d'indexation, etc. Parce que c'est des témoignages qui peuvent durer 3 heures, donc c'est quasi inexploitable comme ça à l'état brut si ça n'a pas été travaillé par des archivistes au préalable. Donc oui, on est face à cette masse de sources qui sont pas toujours très denses et qu'il faut apprendre à traiter. Et puis on est face à de nouveaux champs historiques. En 92, quand on a ouvert le centre d'histoire, il y avait, je crois, seulement 4 ouvrages consacrés aux femmes dans la résistance. Et bien évidemment, il y en a peut-être 100 aujourd'hui. Donc vous voyez, des nouveaux champs qui ont été investigués et qui continueront de l'être.
Finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire sur cette période que l'histoire commence à gagner du terrain sur la mémoire, en fait?
Je n'opposerai pas les deux. Je crois que la mémoire nourrit l'histoire qui nourrit la mémoire. Ouais. Notre rôle à nous, historiens, c'est quand même de faire de l'histoire. Après, que les gens s'en emparent pour se faire leur travail de mémoire, je trouve ça plutôt pas mal. La mémoire, c'est une construction politique. Je crois que on est là pour la nourrir et pas autre chose.
D'accord.
Bien, bah, écoutez, nous vous remercions d'avoir bien voulu nous accorder cet entretien pour 20 minutes d'histoire.
Merci.
Nous encourageons tous les auditeurs à aller au centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Donc,
pas très loin en plus.
Non, à côté de Jean Massé. Donc, nous rappelons également aux auditeurs que le 1er avril aura lieu le gala du Club Rock et le 3 avril le festival de printemps de l'ENS Lyon. Et nous vous laissons avec We Were Evergreen.
Way back home. Spend a lot of time, spend a lot of money, and I don't know where it goes. From the itching down my toes up to my fingers. Spend a lot of time, spend a lot of money, and I don't know where it goes. From the itching down my toes up to my fingers. Travel miles to find, I don't know where I'm heading. If I just could get a sign, I could go someplace in life, but in the meantime, I've been blind and consistent and uncertain. I've been biting little pieces off the corners of the world, and I'll find my way back home, and I'll find my way back home. Go back to everything I used to own. Never felt so uninspired as I do now. In and out of towns, crossing bridges, water and the seating at my head. What I've done and the ways I've led, so I turn around. I've been blind, inconsistent and absurd. I've been biting little pieces of the corners of the world.
If I just just could get a sign, I could go someplace in life, but in the meantime.